Vous écoutez les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis, c'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. A été transformée en descendante. Elle a 4 en soif. 4 en soif, c'est presque le maximum. Et ça fait que vraiment les sensations de la bête sont particulièrement vives et réactives.
Ok.
Quand elle reprend conscience, elle remarque presque immédiatement que dans l'endroit où elle se trouve, elle n'est pas seule. Il y a un homme qui est attaché. Il a des chaînes autour des membres. Et il se trouve étalé au sol un peu plus loin.
Ok. Du coup, Sao, déjà, première chose, malgré toutes les nouvelles sensations qu'elle ressent en elle, et ça lui fait extrêmement bizarre, elle se pose un milliard de questions dans sa tête, elle va surtout regarder si elle n'est pas attachée en voyant cet homme. Est-ce qu'elle aussi est captive ou est-ce qu'elle est libre ?
Elle est complètement libre. Aucun lien ne restreint ses mouvements.
Ok. Du coup, elle va d'abord toucher ses vêtements. Elle comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Le fait de voir qu'elle sait qu'elle est morte et là, elle est debout. En pleine forme, mais avec cette faim bizarre, et elle sent qu'elle n'a pas faim d'une nourriture, elle a faim d'autre chose. Et du coup, elle va regarder cet homme, mais elle va pas lui parler, elle va juste l'observer. À quoi il ressemble, qu'est-ce qu'il porte.
Alors, ce qui peut déjà ajouter à la confusion de Sao, c'est que quand elle s'inspecte un petit peu comme ça, elle va remarquer que la balle qu'il a traversée en plein torse, le trou est encore présent dans son hoodie et dans le t-shirt qu'elle a en dessous, il y a encore la traversée de la balle. Par contre, sa peau a l'air d'avoir été complètement soignée. C'est comme si elle n'avait jamais été touchée par ce tir.
Ok, ça la perturbe beaucoup. Elle va toucher ce trou, elle va même passer ses doigts dedans pour voir si elle n'hallucine pas. Effectivement, il y a un trou qui fait la taille d'une balle. Et elle se sent totalement paumée en se disant « Mais merde, je suis sûre de ce qui s'est passé. C'est pas un rêve parce que mon sang est là. » Et elle ne comprend pas ce qui lui arrive. Elle va regarder les alentours, elle va regarder cet homme attaché, elle va voir si elle ne voit pas autre chose. Elle se rappelle de cette fois qu'il lui a demandé si elle voulait survivre. Et elle essaye du coup de retrouver cette silhouette qui l'a soi-disant sauvée. Elle ne comprend même pas comment elle a survécu, mais elle va essayer de voir si cet homme est quelque part.
Il n'y a l'air d'avoir personne d'autre à part cet homme attaché à ses pieds maintenant. D'ailleurs, en s'approchant, Sao remarque que cet homme en question est l'un de ceux qui s'en était pris à elle. On voit clairement le bandana des Bloods qui est noué à son bras. Par contre, elle remarque également qu'il porte des marques de coups. Il a les lèvres qui sont abîmées, l'œil un peu gonflé et un peu de sang qui est maintenant séché sur le visage.
Du coup, elle va regarder, elle va ressentir en le voyant une colère noire. Parce qu'elle se rappelle de ce qui s'est passé. Et le fait de voir lui amocher ses vêtements, tous ces éléments-là, elle sait très bien de quoi, elle n'a plus de doute. C'est arrivé, elle sait pas par quel miracle, elle est encore debout là. Mais elle sait que c'est arrivé. Et elle ressent une colère. Pour l'instant, elle regarde juste avec un regard noir. Ce regard où on se rend compte que c'est plus qu'une gamine de 14 ans qui fait naïve. C'est vraiment une gamine avec une soif de colère et que là, elle a besoin de l'extérioriser. Et du coup, je vais te poser une petite question.
Oui.
Du coup, là, elle ressent de la faim, mais du coup, c'est une envie de sang. Est-ce qu'elle se rend compte que c'est une envie comme ça ou elle a une faim, mais elle sait pas ce que c'est ?
Je pense que c'est vraiment un instinct, comme serait l'instinct d'un animal. Il perçoit ce qui est pour lui de la nourriture assez naturellement. Je pense qu'avec 4 en soif, là, Sao doit sentir effectivement l'envie de mordre cette personne.
Du coup, elle le regarde avec ce regard noir, elle l'observe, du coup, elle remarque ses blessures. Elle se rapproche de lui, elle veut en découdre et lui en foutre une, mais sa faim est si grande que, comme par automatisme et en voyant ses deux traces sur son cou, elle va le mordre exactement au même endroit et éponger sa faim. Comme pour lui faire mal, en plus de se nourrir, elle va vraiment avoir la volonté de lui faire mal en faisant ça.
Alors qu'elle s'abaisse et qu'elle plonge vers le cou de cet homme qui est encore inconscient, elle sent que spontanément, ses crocs se sont étendus. Et au moment où elle est mort, ceux-ci s'enfoncent assez profondément dans la chair. L'homme ouvre les yeux soudainement. Et là, Sao fait l'expérience assez étrange de ce premier repas. La première fois qu'elle se nourrit de sang, elle sent le liquide chaud qui envahit sa bouche alors que ses crocs ont percé le cuir de la peau de sa victime. C'est une saveur assez grisante. Elle ressent plein d'émotions comme ça qui la traversent à mesure que le sang est consommé. Et elle voit bien que la personne s'agite un petit peu mais semble paralysée par cette morsure, comme s'il ne voulait pas que cela cesse. Par contre, quand le sang commence à l'abreuver, elle sent la bête en elle qui trépigne et tu vas me faire un jet de frénésie. Quand tu as 4 en soif, quand tu goûtes du sang, la bête essaye de prendre le contrôle parce qu'elle sent qu'elle a très soif et elle veut s'assurer de boire le plus possible.
D'accord.
Un jet de frénésie, tu vas utiliser tes dés de volonté, tu as 6 et tu ajoutes à ça un tiers de ton humanité. Sao a 7 en humanité pour le moment, ce qui lui fait 8 dés en tout.
Ok.
Et il faut qu'elle fasse au moins 3 succès pour garder le contrôle. Sinon, c'est vraiment la bête qui va prendre le dessus et elle ne s'arrêtera de se nourrir qu'une fois la personne vidée totalement de son sang.
Ok, bon, on va espérer. Hein. Ça va, je vais pas le tuer.
Donc là, 5 succès, c'est excellent. Sao sent qu'il y a cette bête quand même qui la tiraille et qui lui dit de boire plus, toujours plus, de vider cet homme de tout ce liquide précieux. Elle a le choix cependant, comme elle parvient à garder le contrôle, elle n'est pas obligée de le vider de son sang. Par contre, je vais te demander quelle quantité de sang prend Sao sur lui. Là, tu as 4 en soif, combien de niveaux de soif tu souhaites prendre? À toi de voir à quel point elle cherche à assouvir sa soif.
Alors, étant très en colère et que son geste, en plus d'écouter son instinct de faim, elle fait aussi par acte de colère parce que de base, elle voulait juste le bastonner, elle va prendre 3 de soif. Et en fait, ce qui va la faire arrêter au point de ne pas le tuer, c'est que le fait d'entendre cette bête va énormément la surprendre. Et du coup, elle va finir d'un peu d'extérioriser sa haine et elle va reculer d'un coup. Et elle va faire un geste très étrange, comme elle n'a pas l'habitude, c'est qu'elle va toucher son cœur parce qu'elle a la pression de... Comme elle a été surprise, comme si son cœur battait la chamade. Et je pense que c'est là où elle va se rendre compte que en fait, son cœur, il ne bat pas.
Tout à fait, elle n'a plus de battement de cœur.
Du coup, ça va encore plus la surprendre, le fait de déjà d'avoir fait cet acte, mais pour l'instant, elle ne le réalise encore pas, d'avoir entendu cette bête qui lui disait de continuer à boire, et surtout le fait de d'avoir reculé comme ça de surprise en touchant son cœur par réflexe, comme si elle essayait de compresser son cœur qui s'emballait, et se rend compte qu'en fait, non, son cœur s'emballe pas, vu que entre guillemets, elle n'en a plus. En tout cas, il ne bat plus, ce qui va énormément la chambouler.
À ses pieds, l'homme a des petits sursauts, un peu comme si il se sentait mal. Il a ouvert les yeux, mais sa bouche est bâillonnée. Il a l'air dans un état un peu second. Ses yeux sont à peine entrouverts et tu vois qu'il a des petits mouvements de hoquet presque. Il se sent pas bien.
En fait, elle va le regarder dans les yeux, elle-même surprise de ce qui vient se passer. Elle est totalement perdue dans ses sentiments, dans ses pensées. Qu'est-ce qui vient de se passer? Qu'est-ce que j'ai fait?
Je pense qu'elle a même encore du sang sur les lèvres qui goûte.
Justement, elle va toucher ses lèvres, elle va se rendre compte qu'elle saigne, elle va se rendre compte que c'est pas à cause d'une blessure, mais parce qu'elle en a dans la bouche encore. Elle se sent totalement perdue, du coup elle va reculer et elle va regarder dans la pièce s'il n'y a pas une porte de sortie. Et la chose qu'elle va vouloir faire, c'est prendre l'air et donc sortir de cette pièce, ne plus avoir cet homme déjà qui l'horripile, mais qu'en plus, avec qui elle a expérimenté quelque chose de très étrange et de très soudain. Du coup, elle va vouloir trouver une sortie pour prendre l'air.
Alors, cette espèce d'entrepôt, il a des sortes de portes coulissantes, tu vois, des espèces de grandes portes rectangulaires qu'on fait coulisser pour ouvrir en grand l'entrée.
Ouais, je vois.
Sao se rue dessus, elle voit qu'il n'y a pas de loquet. Et avec un mouvement qui, normalement, aurait peut-être été difficile, elle parvient sans trop de problèmes à ouvrir cette grande porte, à la faire rouler sur le côté et à s'ouvrir un passage vers l'extérieur. Là, elle se rend compte qu'elle est dans un entrepôt qui se trouve juste à côté de l'abattoir. Par contre, il y a l'air d'y avoir aucune trace des autres hommes de la nuit précédente.
Ok. Pour l'instant, le fait qu'elle ait ouvert la porte facilement, elle va pas forcément se rendre compte vu qu'elle est en plein tourment. Quand elle va se rendre compte qu'il y a personne aux alentours, elle va prendre quand même le temps de refermer la porte derrière elle. Et là, elle va faire les 100 pas et essayer de remettre ses idées au clair. Qu'est-ce qui vient de se passer ? J'étais censée être morte. Quelqu'un m'a sauvée par elle ne sait quel miracle. Elle vient littéralement de boire le sang de quelqu'un et elle se dit « Mais c'est pas possible. Les vampires, c'est qu'une légende pour faire peur les gosses. Je suis plus une gosse. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui m'arrive ?» Et elle se dit ça dans la tête en disant « Je peux pas être un vampire. C'est une légende qu'on raconte aux enfants. » Elle va toucher ses dents pour voir si elle sent encore ses crocs avec lesquels elle a transpercé cet homme.
Je pense que initialement, quand elle porte ses mains à ses dents, elle rencontre une dentition tout à fait normale. Cependant, rien que le fait de penser à ses crocs, elle sent que les pointes s'étendent et ceux-ci paraissent presque automatiquement.
Ok. Du coup, elle va, quand elle va sentir ses crocs, ça va la surprendre. Elle va retirer ses mains presque de peur, puis elle va essayer de les retoucher. Pendant un moment, pendant quelques secondes, ça va être une sorte de fascination en mode « Mais qu'est-ce que c'est que ça ?» Elle va toucher pendant un instant ses crocs, puis elle va arrêter. Et là, elle réalise un peu que ce qui se passe, c'est du délire, c'est un vampire, elle doit rêver, c'est pas possible. Elle se dit qu'elle est peut-être vraiment morte et que là, c'est une sorte d'hallucination, quelques secondes avant de mourir. Elle essaie de retoucher son corps pour voir si elle sent aucune blessure. Elle va essayer de retoucher à l'endroit où il y a la balle, mais elle va sentir qu'il n'y a rien. Du coup, elle va continuer à faire les 100 pas pour l'instant, à essayer de se calmer, mais elle voit aucune autre explication possible que là, pour l'instant, être un vampire, même si elle trouve pour l'instant cette idée totalement absurde. Mais pour l'instant, elle ne sait pas quoi faire, elle ne sait pas quoi penser. Du coup, après avoir fait les 100 pas près de la porte, elle va commencer à se balader un peu dans la cour, dans l'entrepôt. De toute façon, il fait nuit, donc ça va peut-être comme dans la nuit dernière. Ça veut dire avoir personne à part, normalement, elle et son gang. Et justement, elle va essayer de trouver le corps de son camarade avec qui elle était. Elle va essayer de chercher Cheng, du coup.
Elle retourne sur les lieux de l'incident et elle va remarquer que même s'il y a encore des traces au sol qui laissent penser à du sang, la boue et l'eau ont un peu évacué les traces de ce qui a pu se passer hier soir, qui a pu se passer lors de la confrontation. Cheng n'est plus là, il n'y a personne, il n'y a pas de signe du conflit qui a eu lieu, il n'y a aucune des victimes, rien, comme si tout avait été nettoyé et qu'il n'y avait presque plus aucune trace, à part ces vagues marques de sang qui, pour quelqu'un qui n'était pas là, pourrait très bien avoir simplement un lien avec l'activité d'abattoir des lieux.
Non, c'était, elle se dit, mais c'est pas possible, mais merde, mais qu'est-ce qui est... C'est pas possible, je suis morte, en fait, c'est juste, je suis morte, et ça, c'est quoi, c'est le purgatoire, c'est, je comprends pas. Et du coup, elle va refaire les 100 pas, là où normalement, il y avait le corps de Cheng, cet homme qui m'a appelé Petit Oiseau, il est où? Et du coup, elle va se diriger vers l'abattoir parce que c'est... Et elle va retourner à l'endroit où, normalement, elle a été exécutée et regarder aux alentours s'il n'y a pas la trace d'une présence de quelqu'un, de cette personne qui lui a refilé ses canines bizarres et cette sensation d'être un vampire. Mais elle veut pas y croire parce que pour elle, c'est des légendes. Du coup, elle va retourner à l'endroit où elle a été exécutée.
Elle va voir qu'il n'y a rien de particulier. Comme si on avait voulu ne laisser aucune trace de ce qui s'était passé. Par contre, il y a quand même un petit signe qui ne trompe pas, c'est que en retournant à l'endroit exact où elle a reçu un tir, il y a l'impact de la balle dans le mur derrière, mais la balle a été retirée.
Oh là 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 là. Elle va regarder cet impact sur le mur. Elle va le toucher, elle va le palper en se disant « mais c'est pas possible, elle n'en revient toujours pas ». Là, dans sa tête, ça explose encore plus. Elle comprend pas ce qui se passe et elle se sent totalement perdue. Du coup, après s'être un peu calmée quand même, elle va retourner dans l'entrepôt où elle était tout à l'heure, réouvrir la porte. Là, elle va se rendre compte, étant un peu plus calmée, que oui, c'est bizarre. En fait, elle s'attendait à galérer à l'ouvrir et elle l'ouvre du coup facilement. Ça va lui faire bizarre, mais bon, c'est un peu le cadet de ses soucis à côté de ce qu'elle ressent aussi sur son corps. Elle vient quand même de boire le sang de quelqu'un. Du coup, elle va refermer la porte et elle a... Du coup, je suppose qu'elle voit encore cet homme à terre.
L'homme est toujours à terre, effectivement, il n'a pas bougé d'un pouce. Il a l'air d'avoir perdu connaissance.
Ok. Du coup, elle va fouiller la pièce, voir si elle voit pas d'autres signes, je sais pas, une lettre, un mot, une carte postale, des vêtements.
Il semble y avoir rien du tout. C'est comme si la personne qui lui avait fait ce cadeau, ou qui en tout cas l'avait sauvé, était partie sans rien laisser derrière elle, si ce n'est cet homme qui est enchaîné avec ce qu'elle remarque être des espèces de chaînes qu'on utilise pour fermer les enclos, en fait. Des espèces de petites chaînes en métal qu'on accroche comme ça entre les enclos.
Ok. Elle va regarder cet homme, elle sait pas quoi faire de lui. Elle va mettre sa capuche sur sa tête, elle va sortir et elle va essayer de se diriger vers le lieu de son gang, leur QG.
Vers son quartier à elle ?
Dans son quartier, oui.
Il fait nuit déjà. Vers qui elle se tourne pour le moment ? Elle vit normalement chez sa mère avec son beau-père. Il y a sa grand-mère qui vit pas très loin dans une petite maison de Chinatown. Et elle sait aussi qu'à Chinatown, il y a Chien qui vit avec sa famille. Le gang en lui-même est un peu réparti dans tout ce quartier et à quelques endroits comme ça où elle pourrait probablement retrouver des gens.
Je pense qu'elle va se tourner vers Chien parce que ce qui lui paraît tellement bizarre qu'elle n'a pas envie d'arriver aussi tard chez sa grand-mère et l'inquiéter parce que sinon elle se serait tournée vers elle. Du coup, elle va aller chez Chien. D'abord, elle va vagabonder dans le quartier pour voir s'il n'est pas de vadrouille avec le gang. Et si elle voit qu'il n'est pas là, c'est qu'il est resté chez lui. Et du coup, elle va, comme elle avait l'habitude de faire auparavant, se mettre au niveau de sa fenêtre de chambre et jeter des cailloux pour le réveiller et l'interpeller.
Sa famille vit dans un espèce d'immeuble de ville avec seulement 2 étages. Mais elle a probablement pris l'habitude, effectivement, de lancer un petit caillou, un truc comme ça, sur la fenêtre où se trouve sa chambre. Si peut-être au début il n'a pas fait attention à ces petits bruits, la répétition fait que Chien prend conscience que Sao doit être là et elle voit assez vite la lumière de la chambre s'allumer et le jeune homme qui paraît à celle-ci. Il voit Sao en contrebas, il lui fait signe et il dit qu'il descend.
Donc elle lui fait juste un signe de tête, la tête un peu basse. Et elle attend du coup à l'entrée de l'immeuble qu'il descende et elle l'attend comme ça, la tête baissée, encore tiraillée par ce qui vient se passer et toutes les questions qu'elle se pose.
Alors, elle n'a pas beaucoup à attendre, il descend à toute vitesse les escaliers et la porte métallique s'ouvre et révèle un Chien qui a l'air particulièrement inquiet. Il regarde Sao et lui dit « Sao, ça va ?» Tout le monde parle de ta disparition. Jin et Chiang sont pas revenus non plus.
Jin non plus ?
Non, personne.
Oh merde. Merde. Elle va regarder Chiang et elle fait « Bon, allons quelque part, d'archi discret. Tout ce que tu veux, mais pas ici, j'ai pas confiance. »
Là, c'est comme s'il prenait soudainement conscience de l'apparence de la jeune fille, avec ce sweat qui est troué, avec des traces de boue, et surtout de sang, particulièrement de sang. Hein, ton sweat a été vraiment gorgé de ton sang alors que tu t'en es vidé suite à l'impact de la balle. Et il va hausser les sourcils un petit peu circonspect. Qu'est-ce qui t'est arrivé ?
Justement, je voudrais t'en parler dans un endroit plus discret qu'ici.
Attends, tu peux pas te trimballer comme ça, on va attirer encore plus attention. Viens, mais ne fais pas de bruit.
Ouais, t'inquiète.
Il tient la porte pour laisser passer Sao à l'intérieur et il la devance assez vite dans l'escalier après l'avoir refermé. Une fois sur le palier de son appartement, il ouvre la porte, vérifie qu'il y a toujours personne qui est réveillé de sa famille et va faire signe à Sao de le suivre et d'entrer.
Elle va le suivre en toute discrétion, elle sait que c'est assez risqué déjà qu'il la fasse rentrer et elle va se faire le plus discrète possible et le suivre.
Complètement silencieux, Chien va mener Sao jusqu'à la salle de bain de la famille. Il va lui faire signe d'entrer.
Elle le suit, elle rentre tout de suite.
Et lui s'absente un instant, avant de revenir rapidement avec des vêtements qui semblent un petit peu grands, mais qui devraient faire l'affaire, qu'il a pris probablement dans la garde-robe d'une de ses sœurs ou quelque chose comme ça.
Ok.
Bon, débarbouille-toi, et puis après on sortira.
Ok, du coup, Elle enlève d'abord son sweat, puis elle enlève son t-shirt, et elle lui montre son torse en lui expliquant, et en chuchotant bien sûr, « On m'a tiré une balle là, et je suis pas folle, il y a rien !»
Je pense que Chien est un peu gêné par la situation. Il détourne la tête. Je vois pas ce que tu veux dire. Comment ça, on t'a tiré une balle
Bon, arrête de faire ton gêné. On s'en branle pour l'instant. Je te parle de ça. Regarde mes t-shirts. Du coup, elle prend son t-shirt et son sweat en montrant le trou qu'elle a. Puis elle remonte sa poitrine en disant « Je sais pas ce qui s'est passé hier. »
Il inspecte le t-shirt, toujours le regard détourné. Ouais, c'est bizarre. Mais vraiment, par pudeur, il préfère ne pas regarder vers elle.
Tu fais chier, Jen. Et elle va vite se rhabiller, enlever aussi son bas qui est plein de boue pour remettre un nouveau pantalon un peu trop grand. Elle va récupérer sa ceinture et le serrer au maximum pour que le pantalon tienne.
Est-ce qu'elle se débarbouille un petit peu quand même? Parce que là, pour le coup, elle a du sang séché un peu partout.
Oui, c'est parce qu'elle se dépêche, parce qu'elle sait qu'elle gêne Chen, même si ça l'embête là, clairement, parce que elle veut lui parler de quelque chose d'important et il veut même pas regarder. Du coup, elle se débarbouille vraiment rapidement et se rhabille très rapidement aussi. Et elle répond, c'est bon, tu me regardes maintenant.
Et reporte le regard vers elle. Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Les autres, qu'est-ce qui leur est arrivé?
Vraiment, parce que je sais pas, chuchoter tout le temps. Est-ce qu'on peut pas se mettre quelque part pour que je puisse tout expliquer?
Ah ouais, viens, on va sortir.
Merci.
Et là, du coup, il t'escorte à nouveau vers l'extérieur, en essayant d'être discret, de réveiller personne dans l'appartement. Il va lui-même aller enfiler un sweat au-dessus de son maillot de corps, enfiler des chaussures, et puis du coup sortir avec toi. Une fois que vous êtes à nouveau dehors, il va t'emmener, il y a un petit parc de jeux pour enfants pas très loin, un petit espace vert comme ça qui se trouve vraiment dans la rue d'à côté. Vous vous retrouvez donc dans cet espace qui est assez sombre et solitaire à cette heure de la nuit.
Du coup, Sao va s'asseoir sur un banc qui est là. Bon, je sais pas ce qui se passe, je suis totalement paumée, donc je vais te demander de m'écouter, de te taire et de pas me prendre pour une tarée, s'il te plaît. Je veux juste comprendre.
Déjà, raconte-moi ce qui s'est passé.
Ouais, je commençais par ça. Bref, tu sais la livraison qu'on avait, on devait récupérer la marchandise et se casser, point final. Sauf que une fois la marchandise récupérée, il y a des voitures qui nous ont pris en cavale. On a essayé de fuir, mais Cheng a galéré à traverser ce putain de grillage et il s'est fait choper. Du coup, moi, je me suis planquée, Jin a foncé, et malheureusement, ils ont abattu Cheng. Et ils m'ont trouvé. Donc d'habitude, je fais ma couverture de gamine, là, tu vois laquelle. Sauf qu'ils m'ont pas cru, ils m'ont fouillé. J'ai fait genre que j'essayais d'inventer une histoire bidon en mode que c'était Chen, que je connaissais pas, qu'il m'avait mis ça là. Mais bon, ils m'ont tout de suite capté. Et c'est là où c'est chelou, parce que le mec m'a tiré dessus. Et je te jure, genre il a pas loupé son tir. J'ai senti la douleur, je me suis sentie vidée de mon sang.
Chen va essayer de rationaliser un peu les choses et il va dire la balle a dû te rater et puis peut-être l'adrénaline, le stress.
Chen, t'as vu ma veste? Elle est transpercée. Elle est transpercée. La balle ne m'a pas ratée, j'en suis sûre. T'as vu le sang qu'il y avait sur ma veste et c'est mon sang que tu as vu. Et c'est pour ça que je t'ai demandé, que t'as pas voulu regarder. Oh.
Il est un peu perturbé, il sait pas trop quoi dire.
Il y a un mec qui est arrivé, je sais pas ce qui s'est passé parce que je sentais que j'étais en train de mourir, quoi. Et il m'a porté dans ses bras en me disant si je voulais vivre. J'ai dit oui. Et je suis plus trop sûre de ce qui s'est passé, mais je me suis retrouvée dans un entrepôt. Et il y avait un connard de Blood, c'est eux qui nous ont chopés, qui nous ont... les voitures, là, de fond, j'ai piqué, c'était des Bloods. Et il y en avait un d'enchaîné face à moi dans un entrepôt.
C'était les Bloods? Parce que... du coup, nous, on se demandait si c'était pas les Gangster Disciples qui vous avaient tendu un piège ou un truc comme ça. Hein.
Non, c'est les Bloods. C'est les Bloods qui nous ont tendu un piège.
Ah, c'est pas leur territoire, normalement.
Je sais, je m'en fiche de ça. Là, je te parle pas de ça. Je sais pas où est Jin, déjà. Je sais que Jin est mort, ça, c'est sûr.
Cheng est mort?
Oui. J'ai entendu... je l'ai vu qui s'est fait bastonner. J'ai entendu des coups de feu. Et je pense pas que c'était dans le vent, je pense que c'était pour l'abattre. Et moi aussi, j'ai reçu une putain de balle. T'as vu mes vêtements, merde. Du coup, elle ressouffle un coup, et elle dit, bon, tu vas pas me croire, mais ce qui s'est passé avec le Bloods qui t'a enfermé avec moi, déjà, je sais pas comment il est arrivé là, et comment il a été enchaîné, et qui l'a enchaîné. C'est sans doute le mec qui m'a sauvé. Bref. Et là, j'ai eu une faim bizarre en moi. Et je sais pas, j'ai voulu lui en foutre une parce qu'il a buté Chen, ce connard. Et il a sans doute buté Jin si vous l'avez pas retrouvé. Et je lui ai pas cassé la gueule, j'ai fait autre chose. Et là, elle bloque, elle arrive pas à parler. Mais elle va prendre la malle de Chen et elle va la plaquer contre un endroit où il y a son cœur. Là, t'arrêtes de faire ton puceau 2 minutes et tu écoutes. Pour lui faire comprendre qu'en fait, son cœur ne bat plus.
Chen galère particulièrement éprouvé par cette discussion. Il a pas l'air de trop savoir quoi penser. Lui, toutes ces histoires, il comprend pas grand-chose. Il comprend pas ce qui a pu arriver à Sao. Il a même du mal à croire ce qu'elle lui dit, mais après tout, ce qu'elle lui montre, ce qu'elle lui fait sentir, tout ça, c'est réel. Et ça a l'air de le paniquer un petit peu. Il sait plus quoi dire. Il a les yeux grands ouverts. Il est presque immobile. La bouche ouverte, il sait vraiment pas comment réagir, en fait.
Écoute, je suis désolée, c'est beaucoup d'informations, mais moi non plus, je ne comprends que dalle. C'est pour ça que je voulais en parler à toi et à personne d'autre. T'es le seul dans le gang à qui je fais réellement confiance. Et il faut savoir qu'en tout cas, bon, ouais, c'est les Bloods, on n'a pas fui, on s'est tous les trois fait buter, et je sais pas pourquoi moi j'ai survécu. Et je voudrais te montrer autre chose, mais j'ai trop peur de faire ça ici, parce que je comprends pas... Mais bref, je veux faire la peau aux Bloods, je veux les démonter. Et je me sens totalement perdue parce que je ne sais pas ce qui m'arrive. Et pareil, je sens que je me suis quand même pris une balle et je vais bien. Là, je pète la forme, je pète le feu, je me sens pouvoir soulever des montagnes à ce point-là. T'as vu mes bras? Comment ils sont minuscules? Et je serais prête à tout soulever.
Chen soupire. Je t'avoue, cette histoire, c'est dingue. Écoute, je te crois, c'est sûr. Mais je pense que ça, faut pas que t'ailles le raconter à droite à gauche. On va nous prendre pour des tarés et ça risque de mal finir.
Non, t'inquiète, j'ai pas prévu d'en parler. C'est pour ça que j'en parle qu'à toi. Sinon, oui, je serais déjà allée voir le chef de gang et raconter toute mon histoire. Non, je suis venue voir toi. Parce que je te fais confiance et non, j'ai pas prévu d'en parler.
Bon, t'inquiète, je comprends pas du tout ce qui t'arrive, mais... je suis là, je vais t'aider, on va trouver une solution. Tu crois que c'est comme dans ce film, là, Fright Night, te rappelles, on était allé le voir au cinéma, t'étais encore petite, je suis même pas sûr que t'avais l'âge pour passer normalement.
Bah même aujourd'hui j'aurais pas l'âge de le voir. Et là, bon, elle rigole un peu.
Si t'es une créature de la nuit ou un truc comme ça, faut pas genre qu'on tue celui qui t'a fait ça ou quelque chose dans le genre.
Je sais pas. J'ai l'impression... Là, elle ressouffle un coup. Me prends pas pour une folle, s'il te plaît. J'ai l'impression d'être un vampire. Mais j'y crois pas aux vampires. C'est ça qui m'énerve. Mais tout le fait que je sens plus mon corps battre... Et là, elle chuchote vraiment. J'ai des gros, putain. J'ai des putains de gros, là. C'est pour ça que là, j'ose pas te le montrer ici.
T'as des crocs? Il se penche. Il a l'air quand même assez incrédule. Allez, fais voir, qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Elle regarde vraiment autour d'elle, ultra aux aguets. Elle va vérifier qu'il n'y a personne. Et une fois qu'elle s'est assurée qu'il n'y ait personne, elle va montrer ses dents et penser à ses crocs pour les faire sortir.
Là, Chen a comme un mouvement de recul immédiat. Oh putain, t'es un vampire, t'es un putain de vampire. T'as été transformé en putain de vampire.
Ok, c'est... T'inquiète, je vais rien te faire, je te promets. Mais au moins je sais que je suis pas folle. Ok, j'ai vraiment des putains de crocs. Merde, merde, merde. Écoute, on va en parler à personne. J'en ai parlé qu'à toi et j'en parlerai qu'à toi.
Mais du coup, tu veux te changer en chauve-souris?
Elle lui donne une tape sur l'épaule en disant t'es pas des conneries. Je sais pas, et de tout, ça m'étonnerait, c'est cliché.
Il rigole un petit peu. Ça a l'air de détendre un peu l'atmosphère quand même.
Oui, bah elle rigole aussi, de toute façon, mais elle dit que...
Bon, je sais pas ce qui t'arrive, mais tu peux compter sur moi.
Je te remercie, ça me rassure.